28 juillet 1974. Aéroport d'Orly. La douane française vient d'arrêter Yoshiaki Yamada, un jeune japonais en provenance de Beyrouth. Dans ses bagages, 10 000 dollars en faux billets et des plans d'attaque prévus sur le sol européen. Yamada appartient à l'ARJ, l'armée rouge japonaise, un groupe armé révolutionnaire qui projette de renverser la monarchie nippone. Au menu, attentats contre deux ambassades et de grandes entreprises japonaises partout dans le monde. L'arrestation de Yamada est un coup dur pour l'organisation. Immédiatement, une opération se monte pour le faire libérer.
Depuis 1971, l'ARJ est basée au Liban où ses membres se sont mis à l'abri de la justice de leur pays. C'est à Beyrouth, la capitale, que le groupuscule nippon se rapproche du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Les deux organisations se rejoignent dans leur guerre contre l'impérialisme. Pour récupérer Yamada, l'ARJ et le FPLP organisent une prise d'otage à La Haye, aux Pays-Bas. Le 13 septembre 1974, un commando japonais s'introduit dans les locaux de l'ambassade de France et capture 11 personnes, dont l'ambassadeur. Le représentant diplomatique n'aura la vie sauve qu'à trois conditions. Que Paris livre au commando 1 million de dollars et un avion de ligne pour fuir vers la Syrie. Et que Yoshiaki Yamada retrouve sa liberté. La France refuse de céder. L'ARJ et le FPLP durcissent le ton. À Paris, Carlos est chargé de mener les négociations. Et il va le faire à sa façon.
Septembre 1974, 149 boulevard Saint-Germain, 6e arrondissement de Paris. C'est dimanche, il fait beau. Les clients affluent au drugstore Publicis. À la veille de la rentrée scolaire, les retardataires se procurent les dernières fournitures. Il est 17h10. Un jeune homme vient de faire son apparition à l'entrée du magasin. Il est grand, athlétique, d'origine méditerranéenne peut-être. Il monte au premier étage de la brasserie et s'arrête devant la balustrade. En contrebas, la galerie marchande est bondée. Le jeune homme introduit la main dans sa veste et en extrait quelque chose qui ressemble à un gros avocat. Sans aucune hésitation, il lance ce fruit étrange par-dessus le garde-corps. Quelques secondes plus tard, une déflagration assourdissante souffle le drugstore.
Aussitôt après l'explosion, Carlos prend la tangente. La grenade a transformé le magasin en scène de guerre. Le chaos est tel que personne ne le remarque. Le chacal exulte. Il a l'impression d'être revenu sur le front jordanien. Il vient de faire d'une pierre deux coups. Non seulement cet attentat va forcer les autorités françaises à accéder aux exigences de l'ARJ, mais il a également détruit la propriété d'un juif, Marcel Blechstein Blanchet, fondateur de Publicis. C'est une victoire de plus contre Israël, dans la guerre de libération que le FPLP mène au nom des Palestiniens. Du moins, c'est ce que le chacal se raconte.
Arrivé rapidement sur les lieux, les secours dégagent un corps sans vie des décombres. Les blessés se comptent par dizaines. Le FPLP et la RJ ne tardent pas à revendiquer l'attentat. Ils menacent de récidiver si Yamada n'est pas libéré. Paris cède pour éviter le massacre. Deux jours plus tard, le 17 septembre, le militant japonais est relâché et un Boeing 707 est mis à la disposition des preneurs d'otages de la haie. Le commando s'envole en direction de la Syrie avec 300 000 dollars en poche. La France pleure son premier mort de la main de Carlos. Mais pour le moment, les autorités ne connaissent ni le nom, ni le visage du terroriste.
Janvier 1975. On est lundi et, comme n'importe quel autre travailleur, Carlos débute sa semaine de boulot. Depuis 6 mois, il fait des repérages en vue d'un nouvel attentat pour le compte de Wadi Haddad. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Pour cette opération, il est associé à des membres des cellules révolutionnaires, un groupuscule allemand auteur de plusieurs attentats de l'autre côté du Rhin. Les Allemands se sont occupés de louer les véhicules qui les conduisent à Orly. Parmi les passagers, il y a aussi un lance-roquettes anti-char et 3 fédaïn du FPLP qui doivent se charger d'appuyer sur la gâchette. À quelques encablures du terminal ouest, les berlines se garent sur le bas-côté. Depuis la route, la vue sur le tarmac est idéale. Il est presque midi, mais un Boeing de la compagnie israélienne El Al traverse la piste.
À l'intérieur de l'avion de ligne, les passagers n'ont qu'une vue limitée sur la piste. Les petits hublots ne laissent voir qu'une enfilade de hangars et de halls d'embarquement. Personne n'aperçoit la grenade qui frôle l'appareil et finit sa course meurtrière dans un bâtiment administratif. C'est l'explosion qui donne l'alerte. Le fracas couvre le grondement des réacteurs. Sur les terrasses de l'aéroport, qui permettent d'assister aux atterrissages et aux décollages, des témoins repèrent les tireurs. Au bord de la route, en hauteur, l'un des terroristes porte un long tube sur l'épaule. Il prend appui sur le toit d'une Peugeot 504 et lance une seconde roquette. Le projectile manque à nouveau le Boeing 707 d'El Al. L'avion est trop loin à présent. Les terroristes abandonnent leurs armes et leurs véhicules et s'enfuient sans attendre.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Carlos est ulcéré quand il va chercher les fédaïnes au point de rendez-vous. Cet échec risque de lui retomber dessus. Après tout, c'est lui qui a tout préparé. Ce n'est pas comme ça qu'il va pouvoir grimper les échelons du FPLP. Il faut reprogrammer l'attentat. Wadi Haddad donne son accord. Le 19 janvier, 6 jours après l'attentat, Carlos est donc de retour à Orly, avec la même cargaison. 3 hommes du FPLP et un lance-roquettes. Les fédaïnes vont devoir s'approcher le plus possible pour atteindre leur cible. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ils sortent de la voiture au pied des escaliers qui mènent à l'atterrage du terminal 2. En ce dimanche après-midi, il y a foule pour assister au ballet des avions. Les trois hommes, keffiyés sur le visage, s'avancent vers la balustrade. Sur le tarmac, un Boeing de la compagnie El Al commence sa manœuvre.
De la terrasse du troisième, un CRS repère les terroristes deux étages plus bas. Il voit l'un d'entre eux épauler un lance-roquettes et s'apprêter à tirer. Le CRS ouvre immédiatement le feu. Les fedayins ripostent et se réfugient dans le hall. Ils couvrent leur fuite en lançant des grenades. Les vitres explosent. Les visiteurs et les passagers sont projetés au sol. Talonnés par les forces de l'ordre, les terroristes s'enferment dans les toilettes. Avec eux, 6 otages. 4 hommes, une femme, un enfant. Leur monnaie d'échange pour se tirer d'affaire.
Carlos déguerpit dès les premiers coups de feu. Il veut mettre le plus de distance entre lui et les forces de l'ordre qui déferlent sur Orly. De retour dans sa planque, il envisage une opération pour s'assurer qu'on laissera partir ses camarades sains et saufs. Style Drugstore Saint-Germain. Il faut faire vite. Les hommes du GIGN sont arrivés à l'aéroport et ils abattront les fedayins dès qu'ils en auront l'occasion.
À Orly, la nuit est tombée. Le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, est sur place. Les preneurs d'otages glissent un papier sous la porte des toilettes pour faire connaître leurs revendications. Ils épargneront les otages à la condition qu'on les laisse quitter la France par avion. Poniatowski gagne du temps pour permettre au GIGN d'agir. Vers minuit, les gendarmes parviennent à percer des trous dans la cloison des toilettes. Objectif : avoir un aperçu de la situation et tuer les terroristes si l'ordre leur en est donné. Les preneurs d'otages ripostent en tirant dans les portes. L'un d'entre eux dégoupille une grenade et la garde en main. Poniatowski cède. À 8 heures, les trois fedayins quittent le territoire dans un avion affrété pour l'occasion.
Carlos décampe lui aussi. Il retourne à Londres, où il occupe un appartement avec le Libanais Michel Moukarbal, le responsable des opérations militaires du FPLP en Europe. Techniquement, Moukarbal est son supérieur hiérarchique. Mais Carlos ne le sent pas. Il sait que s'il était pris, le Libanais ne résisterait pas à un interrogatoire et vendrait toute l'organisation. À Londres, Carlos projette de kidnapper l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis pour obtenir une rançon conséquente en échange de sa libération. Et donner une bonne leçon au pays exportateur de pétrole qui pactise avec l'Occident. En juin 1975, Michel Moukarbal rentre au Liban pour rendre des comptes et prendre des instructions auprès de Wadi Haddad. Le commando de Carlos, lui, est prêt à passer à l'action. Mais l'enlèvement de l'ambassadeur émirati est annulé au dernier moment.
Michel Moukarbal vient d'être arrêté au Liban. Les flics ont trouvé sur lui des documents relatifs au kidnapping. L'opération est compromise. Après un interrogatoire musclé, Moukarbal est relâché. Il rentre en France, où il est aussitôt cueilli par la DST, la direction de la surveillance du territoire, prévenu par les autorités libanaises. Les Français placent Moukarbal sous surveillance. Le 13 juin, Michel, le Libanais, se rend dans un café parisien où il s'entretient avec un homme que la DST ne connaît pas. Un grand type, d'origine sud-américaine, à la mâchoire carrée. Les flics le prennent en photo. Le 23 juin, Moukarbal retourne à Londres. Il est immédiatement renvoyé à Paris par les Anglais à la demande de la DST. Les Français le placent en garde à vue et décident de le faire parler. Pendant 5 jours, les flics cuisinent le Libanais. Il est bientôt prêt à craquer.
27 juin 1975, 21h. Au numéro 9 de la rue Toulier, dans le 5e arrondissement de Paris, Carlos donne une petite fête en l'honneur d'une amie qui retourne au pays. L'appartement est situé à deux pas de la Sorbonne, où son père aurait tant voulu qu'il fasse ses études. La guitare fait entendre des rythmes latinos. Carlos se déhanche. C'est un danseur hors pair. Et la piste de danse, son terrain de séduction préféré. La sonnette vient mettre une fausse note dans la mélodie. Carlos va ouvrir et trouve deux flics sur le pas de la porte.
Le commissaire Jean Héranz et l'inspecteur divisionnaire Raymond Doux entrent dans l'appartement. Les deux agents de la DST imposent un contrôle d'identité aux convives. Le ton monte. Ils gâchent la fête. Le commissaire Héranz reconnaît le grand Vénézuélien qui leur a ouvert la porte. C'est lui qui a été photographié le 13 juin dernier, en compagnie de Michel Moukarbal.
Carlos dément. C'est pas moi sur les photos. Les flics insistent. Ils ne sont quand même pas aveugles. Carlos monte sur ses grands chevaux. Il n'est pas n'importe qui. Je vais faire intervenir l'ambassadeur. Les flics se marrent et procèdent à une fouille. Carlos est grillé, il le sait. Ce rat de Moukarbal l'a vendu. Alors, il calme le jeu pour gagner du temps. Il propose à boire aux policiers et s'éclipse aux toilettes.
Le commissaire Héranz en a sa claque des grands airs du Vénézuélien. Il veut le mettre devant le fait accompli. Alors il envoie Raymond Doux chercher Moukarbal, qui attend dans la voiture avec l'inspecteur Jean Donatini. Le chacal revient des toilettes au moment où Michel le Libanais fait son entrée. Sans une hésitation, Moukarbal le pointe du doigt. C'est lui!
Le sang de Carlos ne fait qu'un tour. Il dégaine son tokaref qu'il a glissé dans sa ceinture. Bang, bang, bang. Héranz, Doux et Donatini s'écroulent. Ils n'ont rien vu venir. Ils n'étaient même pas armés. Carlos s'avance vers Moukarbal. Le Libanais l'implore à genoux. Il pleure toutes les larmes de son corps. Carlos n'a aucune pitié. Bang! Une balle entre les deux yeux. Bang! Une autre dans la tempe gauche. C'est le sort qu'on réserve aux traîtres. Sans trembler, Carlos tourne les talons et disparaît par la fenêtre. Il laisse derrière lui ses convives médusés et un bain de sang.
Seul le commissaire Héranz s'en sort, grièvement blessé à la tête. Les flics viennent de faire la connaissance du chacal, de la pire des manières. Tous les services de police sont mis sur l'enquête. Deux jours après la fusillade de la rue Toulier, les flics découvrent une deuxième planque, au 11 rue Amélie, dans le 7e arrondissement de Paris. Ils saisissent un véritable arsenal de guerre. Des dizaines d'armes de poing, des explosifs et des grenades similaires à celles qui a explosé au drugstore Publicis. La locataire est une conquête de Carlos. Elle ignore tout des activités de son amant et du stock qu'il a entreposé chez elle. Elle raconte aux flics que le terroriste est passé rue Amélie le soir de la tuerie et qu'il a téléphoné à Londres. Les Britanniques sont alertés. D'autres femmes viennent se plaindre à Scotland Yard. Carlos s'est servi d'elle pour planquer son matos et des faux documents dans leurs appartements. En France, les empreintes du terroriste retrouvé rue Toulier parlent enfin grâce aux autorités vénézuéliennes. Carlos s'appelle en réalité Ilich Ramirez Sanchez. Il est le fils d'un avocat richissime. Il parle 6 langues. Et il a fait ses études en URSS. Les flics savent tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Il ne reste plus qu'à lui mettre la main dessus.
Mais Carlos a quitté la France dès le lendemain du triple meurtre. Avec une seule urgence, se mettre à l'abri de la justice de l'Hexagone. Le 28 juin 1975, il est à Bruxelles. De Bruxelles, il se rend à Hambourg et de Hambourg à Berlin. L'ancienne capitale allemande est coupée en deux par un mur. De l'autre côté, le monde communiste, l'assurance pour Carlos de rester libre. Il obtient un visa pour pénétrer dans Berlin-Est, en République démocratique d'Allemagne. Ni la France, ni aucun de ses alliés ne viendra le chercher chez les soviets. Et le massacre de la rue Toulier finira par tomber dans l'oubli. Carlos se trompe. Les autorités françaises viennent de faire de lui leur ennemi public numéro un. Et elles ne sont pas prêtes de tourner la page.